Alors d'abord, je voudrais dire quelque chose à tous ces jeunes-là qui nous ont été présentés. Vous ne savez peut-être pas, mais vous n'êtes pas là par hasard. Si Dieu vous a mis là, il y a une raison. Et probablement, c'est comme Paul disait aux Romains, c'est en vue d'affermir votre foi, mais mieux, nous encourager mutuellement dans la foi qui nous est commune. Alors soyez les bienvenus et que nous nous encouragions ensemble. Voilà, ce matin, on va encore parler de Paul. La deuxième prière de Paul, de l'épître aux Éphésiens, donc c'est Éphésiens 3 au verset 14. Il nous a été déjà dit des choses que l'Esprit Saint nous aide à grandir et à changer. Et c'est un peu tout le sujet de cette prière. Alors on va commencer à lire donc Éphésiens 3, de 14 à 21. Donc c'est Paul. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors déjà, cette prière ne peut pas se détacher du reste de l'épître. On le voit tout de suite, hein, au début, il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi ça se rapporte à tout le reste. Et dans cette épître, Paul a parlé de choses merveilleuses, exceptionnelles. D'abord, il a parlé de la destruction par la croix de Christ des barrières entre les hommes. Un seul homme nouveau, une nouvelle humanité a été créée en Christ. Nous sommes édifiés ensemble pour former un saint temple, une habitation de Dieu en esprit. Paul a décrit le plan secret de Dieu de toute éternité, se faire un peuple, juif et païen ayant un même héritage, formant un même corps, participant à la même promesse, celle du Saint-Esprit. Alors en lisant ces concepts noble, on se demande peut-être si c'est pas un peu trop idéaliste, une vision utopique, une vision qui ne fait pas face à la réalité des choses. Est-ce qu'on peut vraiment vivre en harmonie? Est-ce qu'on peut renoncer à notre égoïsme pour le bien des autres? Est-ce qu'on peut se débarrasser de nos rivalités? Est-ce qu'il est possible d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes? Puis au lieu de considérer nos propres intérêts, est-ce qu'on peut vraiment considérer ceux des autres? Après tout, si nous, chrétiens, avons accès auprès de Dieu, si nous sommes la famille de Dieu, et si nous sommes édifiés ensemble pour être le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, sur le plan pratique, tout ça ne vaut rien si nous n'avons pas les uns pour les autres la même sorte d'amour que Dieu a montré en Christ quand il est mort pour nous. Alors, le texte que nous avons lu commence par les mots « à cause de cela ». Comme le premier verset de ce même chapitre d'ailleurs. En effet, au début, Paul ayant décrit tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, Paul allait prier, mais il s'est interrompu et il a ajouté que tout cela était le plan de Dieu depuis toute éternité, mais que Dieu a maintenant révélé la manière de son accomplissement aux apôtres et aux prophètes. Et donc, dans ce que nous avons lu, Paul commence sa prière en disant « à cause de cela » ou « c'est pourquoi ». Donc cette prière est intimement liée au plan de Dieu. Le plan de Dieu pour... C'est lui qui le pousse à prier, et ce plan, c'est un seul troupeau, un seul berger. Et la prière de Paul met l'accent sur cette unité. Il y a des références à la famille, à tous les saints, à l'Église. Alors, pratiquement, comment ce plan de Dieu sera-t-il achevé ? Et comment pouvons-nous vivre ce plan ? Qu'est-ce qui va nous rendre capables de vivre en harmonie et dans un esprit d'unité ? Comment pourrons-nous nous débarrasser de nos sentiments de supériorité, des attitudes de racisme, des blessures et des amertumes qui brisent le corps de Christ ? C'est justement à cause de cela que Paul prie. Et dans cette prière, nous voyons la progression par laquelle le plan de Dieu va se réaliser dans nos vies. Et pas seulement dans nos vies, surtout dans l'Église. Et son plan pour l'unité de l'Église se réalise en trois étapes. D'abord, il se réalise par la puissance du Saint-Esprit. C'est le début de cette prière. C'est cette compréhension essentielle du rôle du Saint-Esprit qui pousse Paul à prier. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Alors j'ai lu que dans le grec, ce qui est traduit par toute famille pourrait se traduire aussi par toute la famille. Et ça me semble beaucoup plus correct comme traduction dans ce contexte. Paul ne met pas l'accent sur la pluralité de famille, mais sur l'unité de la famille de Dieu. À plusieurs reprises déjà, dans cet épître, il a parlé de Dieu le Père comme Père. Au début de l'épître, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors moi je suis toujours émerveillé parce que on a vu que Jésus parlait à Dieu son Père, mais c'est notre Père aussi. Christ, c'est notre frère. Puis toujours au début de l'épître, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Puis un peu plus loin, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et à la fin du deuxième chapitre, Paul dit que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Paul fléchit donc les genoux devant Dieu, le Père de tous ses enfants, ceux qui sont déjà au ciel et ceux qui sont sur la terre. C'est de lui que nous tirons notre nom, nous sommes ses enfants. Voici ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour accomplir le projet de Dieu dans l'Église. D'abord, le Saint-Esprit fortifie notre homme intérieur. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Alors, dans ce verset, nous voyons pourquoi nous devons prier. Le plan de Dieu peut s'achever en nous par l'action de son Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être fortifiés puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. Paul met un accent fort sur la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir nous changer. Et Dieu nous donnera d'être fortifiés, mais pas seulement fortifiés, d'être puissamment fortifiés. Le verset 20 met l'accent sur la puissance qui agit en nous. Si Paul parle de cette grande puissance qui fortifie en réponse à la prière, il nous dit que Dieu nous donne cette puissance du Saint-Esprit selon la richesse de sa gloire. Dieu ne donne pas avec parcimonie. Alors, nous changer, c'est pas seulement pour nous une manière extérieure de nous comporter selon les règles de civilité et de politesse. C'est une transformation de notre être intérieur, une métamorphose de notre caractère qui n'est possible seulement au Saint-Esprit. Et puis, le projet de Dieu est aussi que Christ habite dans nos cœurs par la foi. La présence de Dieu dans nos cœurs, de Christ dans nos cœurs, nous enracine et nous fonde dans l'amour. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pardon. C'est une autre manière de parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Christ habite en nous. Alors pourquoi devons-nous prier pour que Christ habite en nous? N'est-il pas déjà présent? Et là aussi j'ai lu que le mot grec traduit par habiter signifie plus littéralement s'installer ou demeurer. Il s'agit, comme le traduit Parole vivante, d'une habitation permanente dans le cœur du croyant et non pas d'une résidence temporaire, ponctuelle. Alors, Christ est là, mais est-ce qu'il se sent chez lui? Alors, Christ ne se sent pas chez lui quand nous sommes divisés, quand nous avons de l'amertume, des rancœurs. Il se sent chez lui quand nous persévérons dans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, et que cet amour que nous avons reçu de Dieu se déverse aussi sur les autres. Le Saint-Esprit est là pour que nous portions du fruit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tout le reste, la joie, la paix, la patience, la bonté, et tout ça, ce ne sont que des conséquences de l'amour. Alors, est-ce que Christ se sent chez lui dans nos cœurs? Est-ce que notre attitude envers les autres membres de sa famille lui fait sentir qu'il est le bienvenu? Comment pouvons-nous aimer toute la famille de Dieu? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans les membres de nos familles, tous ne sont pas très aimables. Parfois, je ne suis pas agréable. Je ne suis pas toujours sympa. Souvent, je fais des gaffes. Comment vivre avec des gens comme ça? Comment les aimer? Comment surmonter nos préjugés? Comment unir au lieu de diviser la famille de Dieu? La présence de Christ en nos cœurs effectue une transformation de notre caractère pour que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Pour que nous puissions nous libérer des chaînes du racisme, des hostilités, de la discorde, de la jalousie, des fureurs, des rivalités, des divisions, des partis pris, de l'envie et de toutes les autres œuvres de la chair Vous n'aurez qu'à relire Galates 5. Ainsi, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies produit un amour pour nos frères et sœurs, tous si différents. Et c'est le plan de Dieu pour que l'unité de l'Église se réalise. Or, la deuxième étape du plan, c'est que l'action de l'Esprit de Dieu nous permette de comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Paul dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alors Paul parle des différentes dimensions de l'amour de Christ. Déjà tout au début de la lettre, Paul avait mis l'accent sur l'amour de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Il met aussi un accent particulier sur l'amour pour les autres. Ayant entendu parler de votre amour pour tous les saints, supportez-vous les uns les autres avec amour. Paul prie pour que nous puissions comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Et dans ce verset, il parle avec tous les saints. Il ne vise pas le plan individuel. Il ne veut pas que nous pensions « j'ai tout compris de l'amour de Dieu pour moi ». Il prie pour que, étant enracinés dans la foi et fondés par l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints les dimensions de l'amour de Dieu. Paul pense que c'est de façon collective que tous les saints doivent comprendre l'amour de Christ pour eux. Et Paul prie pour que nous soyons capables de comprendre les dimensions de l'amour de Christ, pas d'une façon intellectuelle, puisque l'amour de Dieu, comme Dieu lui-même, est infini et ne peut se comprendre. C'est donc quelque chose qu'on doit saisir dans notre cœur. Alors, quel est l'amour, la largeur de l'amour de Christ? Il y a plein d'interprétations là-dessus. Je vais vous en donner qu'une. L'amour de Christ est si large qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit pas objet de son amour. Son amour inclut les païens dans la chair et ceux qui se disent circoncis, ceux qui étaient privés du droit de cité en Israël et ceux qui en étaient citoyens. Son amour inclut juifs et païens, grecs et barbares, esclaves et libres, fils et filles, vieux et jeunes, blancs et noirs. Il inclut tout le monde. Il englobe tous. Quelle est la longueur de l'amour de Christ? Son amour pour nous a commencé avant la fondation du monde, dans l'éternité passée. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il s'étend jusque dans l'éternité future, quand nous recevrons de Dieu l'héritage qu'il réserve aux saints. Il n'a ni commencement ni fin. Nous n'arriverons jamais au bout de cet amour. Quelle est la profondeur de l'amour de Christ? Son amour descend jusqu'à ceux qui sont morts par leurs fautes et par leurs péchés, qui marchent selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion et qui se conduit selon leur convoitise charnelle, qui sont enfants de colère, qui sont sans Christ, sans Dieu et sans espérance dans le monde. C'est pourquoi l'amour de Dieu est capable de nous trouver, quel que soit notre état, même si la société nous rejette, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et quelle est la hauteur de l'amour de Christ ? Son amour est si grand, si haut, qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Vous imaginez qu'on est assis là-haut, avec Christ ? Alors remettons cet amour dans son contexte. Christ aime son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Or, si Christ aime son Église, nous devons aussi l'aimer et aimer tous les membres qui la composent. Paul parle ici d'un amour qui surpasse toute connaissance. Le paradoxe, c'est qu'il dit qu'on peut le connaître. Comment mesurer ce qui n'est pas mesurable ? L'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs nous permet de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en l'expérimentant. Aussi intelligents que nous puissions être, et nous le sommes, cet amour de Christ, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas comprendre toute sa grandeur. On peut juste comprendre que dans nos cœurs, que on ne pourra jamais épuiser cet amour. Alors la troisième étape de l'action du Saint-Esprit consiste à ce que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là ? C'est un langage qui nous dépasse un peu, non ? Soyons clairs. Paul ne dit certainement pas que nous qui sommes finis, nous puissions contenir l'infini. Il ne dit pas que nous puissions être aussi sages, saints et remplis d'amour que Dieu. Nous pouvons et nous devons être sages, saints et remplis d'amour, mais nous serons à jamais que des créatures avec nos limitations. Alors, je pense que Paul veut dire par là que nous pouvons être remplis jusqu'à notre mesure de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manquement, de vide dans nos vies. Nous pouvons être tout ce que Dieu veut pour nous. Et cela est confirmé au chapitre suivant où Paul dit que les dons et les ministères ont été donnés par Christ à l'Église pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et pour ma part, il y a encore du boulot, hein ? Et on voit que les trois membres de la Trinité sont à l'œuvre dans nos vies pour nous amener à cette maturité en Christ, pour que le plan éternel de Dieu se réalise dans l'Église. Le Saint-Esprit, par sa puissance, change notre caractère, notre cœur. Christ nous fait comprendre toutes les dimensions de son amour pour toute l'Église. Et ainsi, nous sommes remplis jusqu'à la mesure de toute, à notre mesure, de toute la plénitude de Dieu. Alors, la conclusion de cette prière, c'est les versets 20 et 21. Paul a prié pour que nous puissions mesurer ce qui n'est pas mesurable, les dimensions de l'amour de Dieu. Il a prié pour que nous connaissions l'inconnaissable amour du Christ. Il a prié que nous puissions être remplis jusqu'à notre mesure de toute la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que ça déborde. Alors comment ces choses peuvent-elles se réaliser dans nos vies ? Est-ce que Paul exagère un peu ? Est-ce qu'il ne vise pas un peu trop haut ? n'utilise pas trop, non. En plus, il insiste que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment accomplit-il son projet ? Par la puissance qui agit en nous. La gloire donc n'est pas pour nous, mais pour Dieu. À lui la gloire, dit-il au verset 21. Et cette gloire se manifeste dans l'Église et en Jésus-Christ. C'est étonnant d'ailleurs que l'Église soit nommée avant Jésus-Christ. Mais la gloire de Dieu est intimement liée à la gloire que Christ reçoit dans l'Église. Quand l'Église vit selon le plan de Dieu pour son unité, Christ est glorifié et le Père est glorifié. À lui la gloire dans toutes les générations, au siècle des siècles. On peut remarquer que toutes les générations sont concernées, toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous sommes associés aux chrétiens qui nous ont précédés, car tous ensemble, nous formons son Église, son corps, son épouse. Amen.